Le titre du message qu'on a aujourd'hui, la méditation qu'on va faire ensemble, « Connaissez-vous celui qui existe depuis l'éternité? » Nous, on est venus au monde. Moi, je suis venu au monde en 1959. Ça fait pas si longtemps que ça, mais il y en a qui vont trouver que ça fait longtemps. Mais ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense face aux peut-être 7000 ans d'histoire humaine qu'on voit dans la Bible, que ça nous est raconté. Puis 7000 ans, c'est pas gros. Puis il y a eu le début de la création, quand Dieu a créé toute chose. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qui était là avant que ça soit créé? Il y avait juste le Créateur. Tout était néant, était vide. Puis le Créateur, un jour, il a pensé en lui-même. Il n'était pas tout seul en lui-même, parce qu'on va le voir dans l'étude. Il était trois, à ce qu'on connaisse. Il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois étaient pleinement un seul Dieu qui était là de toute éternité. Puis qu'un jour, ils ont eu comme projet de former un monde invisible où il y aura des milliards d'anges, puis des archanges, puis des chérubins, des séraphins, puis il y a toute une histoire qui se déroulait là. Puis une autre journée, ils ont décidé, dans leur préscience, ils ont pensé à tout ça, puis ils l'ont mis en exécution. Ils ont créé le monde, l'univers qu'on connaît actuellement, avec tout ce qu'on voit de nos yeux, tout ce qui pousse, tout ce qui vit, c'est Dieu qui a créé tout cela. Combien de temps que ça a pris, on ne le sait pas, parce qu'il y en a qui disent c'est 7 jours directs, il y en a qui vont dire c'est 7 périodes qui duraient plus longtemps. Mais le point qu'on veut en venir, c'est un Dieu créateur-là, il a décidé un jour de mettre en place une création. Puis on se retrouve les deux pieds dedans, 7000 ans plus tard, 6000 ans plus tard. On vit dans un monde actuellement où c'est un monde qui cherche à enterrer Dieu. Enterrer toute révélation, toute pensée qu'on pourrait avoir sur Dieu. Il essaye d'oublier Dieu, il essaye de tasser Dieu, puis de donner plein d'explications scientifiques pour essayer de dire, ben on est là à cause de l'évolution, il y a eu une petite cellule à quelque part qui a décidé d'évoluer à la grandeur de l'univers, seul, sans personne d'intervienne, puis là, il s'invente de toutes sortes de théories, dans le but d'enterrer Dieu. Puis ça, c'est pas juste du verbal. Ça fait partie des cours que les gens ont à l'école, des enseignements avec des belles théories, comme la théorie de l'évolution ou d'autres théories qui partent de l'imagination de l'homme. Comme je vous disais tantôt, ils veulent oublier que Dieu est là. Les gens lancent des théories que tout s'est matérialisé tout seul. C'est comme si je dirais aujourd'hui, ma bouteille d'eau est apparue toute seule. Mais là, il y en a qui vont me dire, ben non, il y a quelqu'un qui a découvert comment faire du plastique, puis ils ont découvert aussi à faire du papier, puis imprimer ça, puis ils ont réussi à tout assembler pour ramasser l'eau qui existait déjà, puis la mettre dedans. Puis là, ils nous donnent une bouteille avec tout ce qu'il y a dedans. Des choses qui se font tout seul, il n'y a pas grand-chose qui se font tout seul. Tout est là, puis il y a une modification de ce qui est là. Mais qui a mis ça là? C'est ça la question. Qui a créé la première molécule, la première particule de l'évolution? Qui a mis en place l'univers tel qu'elle est, puis la planète surtout, avec son système qui est parfait? Parce que la planète, si ça ne serait pas à 100% parfait dans toutes ses composantes, au niveau de les mélanges d'air, puis de gaz, puis de tout ce qui est là, mais on ne pourra pas avoir de la vie sur la Terre. Il fallait que cette recette-là, qu'il y a une chance sur... tu vas prendre un tableau, là. Il y a une chance sur 1,000000000 avec... Hein? Des milliards. Il y a une chance sur des milliards de milliards de chances que ça puisse arriver par hasard que la planète soit 100% habitable, telle qu'elle est présentement, par elle-même. On voit bien que c'est trop parfait pour avoir été fait tout seul. Les gens veulent ignorer l'existence d'un Dieu créateur de l'univers. Pourquoi qu'on veut l'oublier? Parce que ça nous remet en question. Si on pense qu'il est là, donc il y a peut-être quelque chose d'autre après, Parce qu'on nous autres, on est habitués à penser juste uniquement à notre petite vie terrestre. On est venu au monde, on court pendant notre vie, profiter de tout ce qui est là, puis paf, un jour on va mourir, puis on se dit, s'il n'y a pas de Dieu, ça s'arrête là. J'avais juste le temps de vivre, puis après ça, c'est fini. Puis j'ai pu profiter au max de tout ce qui était devant moi. J'ai frappé du monde, j'ai écrasé du monde, j'ai volé du monde. C'est pas grave, ma vie s'arrête là. J'ai pas de conséquences après. J'ai pas de compte à rendre à un Dieu. C'est là qu'est la question. Les gens, ils ont peur d'être obligés de rendre compte à Dieu. Même parmi les religions, même parmi la religion des Juifs, parce que les Juifs du temps de Jésus, ils partent de leur religion, il y avait plusieurs religions parmi les Juifs au temps de Jésus. Il n'y avait même pas le même point de vue sur qu'est-ce que Dieu avait dit dans sa parole. Parce qu'il y avait des pharisiens, puis il y avait des sadducéens, puis il y avait d'autres sectes, d'autres religions, mais ça, c'était les deux plus importantes. Puis on voit que dans Acte 23, le verset 8, ça nous dit, les sadducéens disent, il n'y a pas de résurrection, puis il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens y affirment qu'il y a des anges, qu'il y a des esprits, puis il y a une résurrection. Les religions s'entendent pas pour faire le point, pour dire, ça existe-tu dans le monde invisible? Y a-tu quelque chose dans le monde invisible? Y a-tu un Dieu qui est là dans le monde invisible? Y a-tu des anges, des esprits? Ça existe-tu? Nous autres, on a pu, par la grâce de Dieu, d'expérimenter puis d'en voir quasiment visiblement. On a vu agir des esprits dans la vie des gens, puis des gens qui ont été délivrés de ces esprits-là, puis que leur vie était changée. Ça existe, des esprits. On a la preuve, mais il y a beaucoup de gens qui se par des religions, puis ils veulent ignorer aussi même qu'il y aura un monde invisible, puis qu'il y aura des anges, puis des esprits. Puis quand on parle d'esprit, on parle du diable, puis ses démons. Il y a des sectes qui nient pas qu'il y ait des anges, puis des démons, puisque les sectes sont concentrés à adorer Satan, puis à servir Satan, puis à chercher à être remplis de plus en plus de démons pour faire le plus de mal possible dans leur vie, puis avoir des pouvoirs magiques pour faire des choses dans ce monde. C'est la puissance de l'invisible. Il y a quatre choses dans l'invisible, puisqu'il y en a qui vivent de quoi avec. Puis nous, la Bible, elle nous le dit qu'il y a quelque chose dans le monde invisible. Dieu a créé des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Il a créé tout une création, là, puis il y a une histoire sans fin qui se déroule dans ce monde-là. Puis il y a eu une époque, même parmi les Juifs qui étaient supposés être les représentants de Dieu, que les Juifs eux-mêmes niaient l'existence de Dieu. Puis ils niaient aussi qu'il y aurait une conséquence possible à leur rébellion. On voit ça dans Jérémie, le chapitre 5, les versets 11 et 12. Puis c'est Dieu qui est en train de parler à travers d'un prophète pour dénoncer cela, que le peuple d'Israël, qui serait supposé être un peuple qui représente Dieu sur la terre, mais il croyait pas en Dieu, puis il croyait plus qu'il y avait quelque chose après la mort. Puis il se disait, la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles. C'est Dieu qui parle, dit l'Éternel. Il renie l'Éternel en disant, il n'existe pas. Imaginez-vous, le peuple qui était supposé de représenter Dieu sur la terre, il était rendu qu'il disait, Dieu n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous, et nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Ils croyaient même plus qu'il y aurait une possibilité d'avoir une conséquence de leur méchanceté. Ils croyaient plus que Dieu était pour les punir s'ils se rebellaient. Voyez-vous, c'est un peu ça qui est l'arrière-plan de l'humanité. Les gens veulent ignorer l'existence de Dieu, puis ils veulent ignorer qu'il va avoir un jugement après, qu'on va être jugé selon nos œuvres, ou ce que Dieu va regarder ce qu'on a fait, parce qu'il va tous nous ressusciter, c'est ce que la Bible a dit. Il va tous nous ressusciter, puis on va tous comparaître devant Dieu, un par un, chacun à notre tour, pour rendre compte de nos actions. Dieu existe-t-il vraiment? Comment qu'on fait pour trouver Dieu? C'est ça qui est important. Si je réalise que j'ai deux pieds sur la terre, puis je le sais consciemment que je suis pas correct. J'ai fait plein de péchés, j'ai fait plein d'affaires qui sont pas de Dieu dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'a pas fait de péché? La Bible a dit tous ont péché, puis ils sont privés de la gloire de Dieu. On y échappe pas. On a tous fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver Dieu si je sais que peut-être qu'il y a un Dieu à quelque part? Puis je voudrais être sûr qu'il y en ait un. Puis en même temps, je voudrais être sûr que ma vie est en règle face à lui. Parce que tu peux vivre les deux pieds sur la terre, te sentir coupable de tes péchés, puis pas encore avoir trouvé la solution pour t'en sortir. Puis il est là le problème. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, ça nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu es là aujourd'hui, tu aimerais ça avoir des preuves que Dieu existe, mais ça te prend de la foi. Ça prend une confiance en dedans de toi. Faut que tu en entendes parler, c'est sûr, tu peux pas croire si tu n'as pas entendu parler. Mais si tu en as entendu parler, tu sais qu'il y a une possibilité qu'il y a un Dieu qui est là, ça te prend de la foi pour commencer à croire en ce Dieu-là. Puis te dire, c'est vrai que ça s'est pas fait tout seul, tout ce qui est là, là. Toute sa création-là, il y a quelqu'un qui a mis ça là. Y a-tu de quoi à me dire, ce Dieu-là? J'ai-tu de quoi à apprendre de lui? J'ai-tu à mettre ma vie en règle devant lui? Mais c'est toutes des bonnes questions. Parce que ça va t'aider si tu cherches à trouver Dieu. Ça te prend, comme je t'ai dit dans ce verset-là, de la foi, de la croyance, que tu puisses avoir comme, oui, je pars avec l'idée qui est là, je vais commencer à y demander. Je vais commencer à y demander qu'il se révèle. Je vais commencer à y demander qu'il me réponde. C'est le départ. La Bible, elle dit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu, il est prêt à ouvrir les portes, puis à se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver, que la Bible nous dit. Mais où peut-on entendre parler de Dieu? C'est ça encore une bonne question. C'est où la source des informations qu'on puisse entendre parler de Dieu? Il y a tellement de religions sur la terre, tellement de monde avec des opinions différentes. Comment est-ce que je fais pour savoir c'est où la bonne place pour en entendre parler? Première place que je vais vous emmener, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle existe bien avant toutes les religions. La Bible, c'est là-dedans que tout le monde, la plupart de toutes les religions, puisent leur information. Même la religion musulmane est venue après. Il y a eu l'Ancien Testament décrit. Puis là, ça promettait qu'un Messie viendra au monde, qui naîtra d'une vierge, qui naîtra à Bethléem, puis qui mourrait pour le pardon des péchés. C'était tout annoncé dans la Bible qu'il viendra un Messie, un Sauveur, puis ça s'est tout accompli, comme ça a été dit. Les prophéties se sont toutes accomplies à la lettre. Puis après ça, ils ont écrit le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, l'enseignement de Jésus, toute l'alliance qu'on a avec Jésus, ça a été écrit, puis après ça, il y a eu la religion catholique 350 ans plus tard, la religion musulmane 6 à 700 ans plus tard. La plupart des religions sont parties après Jésus. Mais la parole de Dieu, elle existait depuis le début de la création. On a des récits qui, dans la Bible, qui datent d'Adam et Ève, du début des humains. Ça s'est transmis de père en fils, cette information-là, puis l'histoire de un enfanté un, puis un autre enfanté un autre. Tout est écrit, on a toutes les histoires. À partir d'Adam et Ève, on a tous les descendants, un qui enfantait l'autre, jusqu'à Jésus. Ils sont quasiment tout écrits. Où est-ce que je vais aller pour entendre parler de Dieu? C'est dans ce livre-là. Alors regardez bien ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 1, les versets de 1 à 4. 1 à 3. après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, tout de suite dans le premier verset, ça nous dit que Dieu nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Ils sont où ces prophètes-là? C'est ceux qui ont parlé dans le nom de Dieu. L'Ancien Testament déborde d'histoires puis de prophètes de Dieu, des gens qui ont parlé dans le nom de Dieu puis ont annoncé le message de Dieu, en particulier au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu pour représenter Dieu sur la terre dans l'Ancienne Alliance. Puis Dieu envoyait des prophètes pour leur parler, puis ça nous dit dans ce verset-là, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères en parlant, c'était des Juifs qui écrivaient cela. Les Juifs, ils parlaient aux Juifs par les prophètes. Dieu, ses paroles, on peut les retrouver écrits dans l'Ancien Testament. Ce que les prophètes ont vécu, allez lire ça. Ce que Moïse a écrit, ce que les prophètes ont écrit, c'est les paroles de Dieu. Ça nous dit, au verset 2, « Dans ces derniers temps, » là on était à l'époque de Jésus quand c'était été écrit, « Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. » Qui est le Fils de Dieu? Il n'a pas 50 fils. Dieu a un seul fils, son fils unique, c'est Jésus. Ça dit, avant, il nous a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, puis d'un dernier temps, il nous a parlé par le Fils, par Jésus, son fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire, tout ce qu'on voit, ça appartient à Jésus. Ça a été créé pour Jésus. Faut pas penser que c'est à nous. C'est à Jésus. Il est libre de leur donner à qui veut. Mais il nous prête notre temps terrestre. Dieu nous prête notre temps terrestre. Le temps que vous vivez présentement, c'est du temps prêté. Vous avez eu la vie, ça fait peut-être 70 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans que vous êtes au monde. Dieu vous a prêté la vie, mais votre vie appartient à Dieu. Puis un jour, il va vous la redemander. Tout appartient à Jésus. Puis ça nous dit au verset 3, Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu, c'est l'empreinte de sa personne. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu le Père. Jésus est venu même, ça nous dit, un peu plus loin, que c'est Jésus qui est venu faire la purification de nos péchés en mourant sur la croix. Après ça, il est ressuscité et est allé s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Jésus existe-t-il encore aujourd'hui? Oui. Il est où? Il est dans les cieux, dans le monde céleste. Puis il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La terre lui appartient, puis il est partout en même temps. Il est ici avec nous autres, puis il est avec d'autres chrétiens à l'autre bout de la terre. Il est partout. Il est sur la terre, tout lui appartient. Puis on va voir que dans le prochain verset, que tout ce qu'on voit décrit dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Dieu a faite, c'était les paroles de Dieu, le Père, dit par la bouche de Jésus. On veut entendre parler Dieu. Où est-ce que je vais aller? Va lire le Nouveau Testament. Ça nous dit que Dieu, d'un dernier temps, nous a parlé par le Fils. Tu vas entendre parler Dieu. Va lire ce que Jésus a dit. C'est la parole de Dieu. Jésus a été envoyé par son Père pour nous révéler Dieu, pour nous parler de Dieu, pour nous parler quelle manière qu'on pourra rentrer dans la présence de Dieu. C'est important de savoir comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on rentre pas après la mort automatiquement. Le royaume de Dieu, la présence de Dieu, ça appartient à Dieu. Ça nous appartient pas. Nous, on a juste une vie prêtée présentement. La vie après, faut s'arranger d'avoir fait ce qu'il faut pour rentrer. Puis il y a une seule manière d'entrer. Comment est-ce qu'on fait pour entrer? Il faut le savoir. Jésus est venu nous le dire comment faire. Dans Jean 14, verset 9, les premiers disciples, ils étaient avec Jésus, étaient en train de jaser avec Jésus, puis il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, puis cela nous suffit. » Là, Jésus regarde celui qui est en train d'y parler, et dit, « Jésus, il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Voyez-vous, quand tu regardes l'histoire de Jésus, quand tu lis l'histoire de Jésus, quand tu regardes tous ses miracles, tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tu es en train de regarder ce que Dieu le Père a dit et a fait. Si on cherche Dieu, tu vas apprendre à connaître des choses de Dieu. Lis le Nouveau Testament. Lis la Bible. Lis ce qui est écrit. Lis ce que Jésus a dit. C'est les paroles du Père. Jésus a dit, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui est en moi, qui est en train de faire les œuvres, puis est en train de vous dire ce que j'ai à dire. Encore plus loin que ça, dans les enseignements, dans le Nouveau Testament, ça nous dit que Jésus, il n'est pas venu juste pour... Il n'a pas juste accompli ça dans sa vie, lui, Jésus, de parler des choses du Père. Dans Colossiens 1, à partir du verset 16 jusqu'à 20, ça nous dit que c'est Jésus qui a tout créé ce qu'on voit présentement. L'univers entier, même le monde invisible, tout a été fait par Jésus. Il n'est pas venu juste pour être comme un porte-parole. Il était là bien avant, au début, au départ, avant que rien soit créé. Il était là avec Dieu son Père, puis c'est lui qui a tout créé ce qu'on voit, puis qui a tout créé le monde invisible aussi. Dans Colossiens 1, 16, ça nous dit, « En Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles puis les invisibles. » Fait que le monde visible qu'on voit, c'est Jésus qui l'a créé. Le monde invisible à nos yeux, le monde des anges et des esprits, c'est Jésus qui l'a créé. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, par Jésus et pour lui. Quand je vous disais tantôt, tout appartient à Jésus, mais tout a été créé par Jésus, puis tout a été créé pour Jésus. Ça nous dit que Jésus, il était avant toute chose. Il était là avant, il n'y avait rien, puis il était là. Et toute chose subsiste en lui. Tout ce qu'on voit présentement, ça se maintient en subsistance, ça existe en Jésus. Tout est créé en Jésus, puis c'est Jésus qui maintient toute chose en subsistance. Mais ce que Jésus a accompli le plus, c'est tout beau qu'est-ce qu'il a fait, mais ce qu'il y a de plus important à savoir, écoutez bien celle-là. Ce qu'il y a de plus important à savoir sur Jésus, c'est son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Quand Jésus est venu, oui, il a eu une vie difficile, mais il a eu une vie consacrée à faire du bien, guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'était super, parce qu'il a donné des délivrances à beaucoup de personnes. Mais c'est la fin de sa vie qui est le plus important qu'on a à savoir aujourd'hui, que je savais tous ces miracles, c'est beau, mais c'est pas ça la priorité. Vous devez savoir pourquoi il est mort à la fin sur la croix, puis qu'il a versé son sang. Il a expiré, là. Puis Jésus, ça nous dit, la Bible nous dit, n'avait pas fait de péché, puis il était pas obligé de connaître la mort physique. Mais quand il a accepté d'aller là, c'est pour payer pour d'autres personnes. Qui? Payer pour moi, payer pour chacun de vous la dette de nos péchés. Dans le verset 20, ça nous dit que Jésus a voulu réconcilier tout avec lui-même. Il a accompli ce qui était nécessaire pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Pourquoi qu'on a besoin de réconcilier? Je pense chicane, Oui, on est en chicane. Oui, on est séparé comme par une chicane d'avec Dieu. Pourquoi qu'on est séparé? C'est nos péchés. C'est nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Notre séparation qu'on a sont à cause de nos péchés. On est séparé, puis il faut qu'on soit réconcilié. Comment puis-je être réconcilié? Mais il faut que tu passes par Jésus. Il faut que tu passes par Jésus pour être pardonné de tes péchés, être lavé de tes péchés, puis pouvoir sortir de là sans péché. Comment est-ce que c'est possible? Mais à cause de Jésus. Jésus, quand il est mort sur la croix, quand il est décédé là au bout de son sang, il est décédé à ta place. Tes péchés devaient t'amener, toi, à être mort. Jésus a accepté de payer la mort à notre place. Il est notre substitut. Jésus, en mourant sur la croix, il est mort pour les péchés de Daniel, puis il est mort pour les péchés de chacune des personnes qui est venue sur cette terre. Sauf qu'il faut aller le chercher, ce cadeau-là qu'il veut nous donner. C'est un cadeau gratuit, pas parce que ça vaut rien d'être pardonné. Ça vaut tout. Parce qu'une fois que tu passes par Jésus pour être réconcilié avec Dieu, c'est de faire la paix avec Dieu, pour régler l'histoire de la dette de tes péchés, pour qu'elle soit lavée, pour que ta dette de péché, que ta liste de péchés soit marquée, payée par Jésus, faut que tu y ailles l'accepter, Jésus, comme ton sauveur personnel. Faut que tu fasses une décision d'accepter Jésus, de le recevoir pour être pardonné de tes péchés, pour être réconcilié avec Dieu, faire la paix avec Dieu, pour que Dieu rentre dans ta vie, puis que tu naisses de nouveau, puis que tu deviennes une nouvelle personne. Pour marcher dans le chemin à suivre Jésus, tu as besoin de Jésus pour suivre Jésus. Pour un jour, tu rentres dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu, dans le ciel, dans le paradis. C'est le seul chemin qui existe, Jésus a dit. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pensez pas de rentrer au ciel, dans le paradis, sans passer par Jésus. Vous allez frapper un nœud, parce que vos péchés vont vous empêcher d'entrer. Faut que tu passes par Jésus, ça apporte. Puis Jésus, c'est le chemin. Il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur personnel, puis que tu persévères toute ta vie à marcher avec le Seigneur jusqu'au jour où il va venir te chercher. Puis mec, tu sois avec, mais tu vas être content parce que tu vas le savoir que tu es sauvé. Tu sais que tu es pardonné de tes péchés. Ta foi te le dit. Tu vis, l'Esprit-Saint va te le dire aussi. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par la foi qu'il faut s'approcher de Dieu. Dieu m'est jamais apparu. Mais j'ai cru qu'il était là, j'ai commencé à le chercher, puis j'y ai demandé qu'il me le montre. Puis il me l'a montré, où est-ce que j'ai appris les choses de Dieu? C'est en lisant sa parole, en lisant les enseignements de Jésus. Si je suis capable de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je l'ai lu, puis je vous répète ce que j'ai lu. J'ai pas de mérite là-dedans, mais vous devez tous passer par là, d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, pour être en paix avec Dieu. Recevoir le pardon de vos péchés, le Saint-Esprit. Votre nom va être inscrit dans le livre de vie, puis un jour, vous allez être avec lui pour l'éternité. Comment est-ce qu'on fait pour le recevoir? La Bible est claire. Tu peux pas être un auditeur passif. Ça, passif, ça veut dire assis à une chaise, pas rien faire, puis laisser passer la parade, puis penser que ça, tu vas y rentrer pareil. Faut que tu sois une personne qui veut le recevoir. Quand Jésus passait dans ce temps-là, il passait dans une ville, il y avait un aveugle qui était en arrière de la foule. Lui, il voyait rien. Jésus passait, il y avait une foule bruyante, puis l'autre, l'aveugle, était en arrière. Mais lui, ce qu'il voulait, l'aveugle, s'il voulait être guéri, puis il savait que Jésus pouvait le guérir. Qu'est-ce qu'il a fait pour être guéri? Mais il a lâché un cri à Jésus. « Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi! » Puis il a crié plus fort que tout le monde pour se faire entendre que Jésus l'a entendu malgré la foule. Puis Jésus, il a dit, « Viens ici! » Puis il l'a guéri. Si vous voulez pardonner de vos péchés, c'est la même affaire. Tu peux pas rester inactif. La Bible, elle dit, faut que tu le confesses de ta bouche. Faut que tu le dises. j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Faut que tu y crois dans ton cœur, mais faut que tu prennes position pour Jésus. Faut que ça y ait une personne qui n'ait pas peur de le dire. J'aime Jésus, je crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis je l'accepte comme mon sauveur, puis je veux le suivre. Je veux le servir. Je veux vivre pour lui. Il est mort pour moi. Je veux vivre pour lui. Le temps de ma vie que je vais vivre pour le servir, pour le glorifier, pour parce qu'il m'aime, mais il m'a aimé le premier. Il a fait les premiers pas. Il est mort pour moi. Il m'a aimé. Moi, en retour, je donne mon amour. Puis si on marche par la foi, sans l'avoir vu, on y croit. Puis ça, cette histoire-là, tu le sens dans toi que t'es pécheur. Puis je vous le dis, vous allez vivre le pardon de vos péchés le jour où vous allez le laisser rentrer. Vous allez sentir, votre vie va être changée. Je pourrais vous faire témoigner des personnes qui l'ont vécu, puis qui sont capables de le dire, que Jésus les a pardonnés, puis que leur vie a changé depuis qu'on a laissé rentrer Jésus. Puis vous devez faire la même affaire. Je vais faire un offre, je vous l'offre. C'est pas à cause que c'est moi, c'est à cause que vous êtes devant Dieu. Jésus est ici présentement, puis il vous regarde. Jésus est ici présentement, puis il vous regarde. Je vous demande de regarder à Jésus, puis de parler à Jésus, puis d'y dire que vous voulez l'accepter comme votre sauveur personnel. Il dit que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas gêné, vous n'avez pas honte de lui. Jésus mérite qu'on se tourne vers lui et qu'on dise qu'on veut vivre pour lui. Est-ce qu'il y a des gens, présentement, peu importe qu'est-ce que vous avez fait, il n'y a pas de péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. Dieu, il vous prend comme vous êtes. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi, puis il faut que vous vouliez changer de vie, puis il va le faire. Il va vous pardonner, puis votre vie va changer. Je vous offre d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Je vais faire une prière avec vous. Est-ce qu'il y en a ici présentement qui entendent le message puis qui ils sont touchés puis ils aimeraient ça que leur vie change, que leur vie soit transformée. Ils aimeraient ça être pardonnés de leurs péchés puis avoir l'assurance qu'ils sont sauvés puis qu'ils vont rentrer au ciel. Regardez pas les autres personnes. Beaucoup l'ont déjà fait la prière. Mais je vous l'offre aujourd'hui. Passez pas à côté de ce stuff-là, de faire une prière à Dieu. Dans le but de vous repentir, de changer de vie. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu. Ce n'est pas les hommes qui doivent t'entendre. Oui, tu vas le dire aux hommes après. Mais c'est à Dieu que tu fais cette prière-là. Dieu t'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Ta nouvelle vie, elle commence. Va dans une église évangélique pour entendre parler de la parole de Dieu. Ça va faire que tu vas rencontrer d'autres chrétiens, puis ça va te nourrir spirituellement. Tu vas faire des activités avec d'autres chrétiens. Ça va t'aider à garder la foi pour que tu puisses persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Amen.